À tout à l'heure.
La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Avec ses 6 km de long sur presque 3 de large, Capri est une île qui se trouve dans la baie de Naples. Depuis l'Antiquité, elle ne cesse de subjuguer les visiteurs. Sur place, il est impossible de ne pas visiter la Villa Jovis, mais aussi la Villa Malaparte, la Via Croupe, les Farioni ou encore la Grotte Bleue. Joanne Ducey, de la première en Suisse romande, c'est notre partenaire. Joanne nous emmène visiter l'île de Capri avec son invité aujourd'hui, Clemens Krauss, qui est archéologue et spécialiste de l'architecture gréco-romaine.
La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Accroché à la falaise, voici la ville de Capri.
Et voici les rochers Faraglioni. C'est l'endroit le plus célèbre de l'île.
C'est l'île de Capri. Il y a 16 000 habitants.
En Italie, la baie de Naples recèle de purs joyaux, des îles merveilleuses. La plus réputée d'entre elles, c'est la mythique Capri. Avec son atmosphère douce et ses paysages lumineux, c'est l'île romantique par excellence.
Quand on parle de Capri, il n'est pas possible de faire l'impasse sur cette chanson.
Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit, je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour.
Capri, c'est fini, chanson d'Hervé Villard, sortie en 1965. Cette chanson a vu le jour parce qu'Hervé Villard, alors âgé de 19 ans, a été inspiré par Que c'est triste Venise.
Que c'est triste Venise, au temps des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Et par une autre chanson de Charles Aznavour, répétant sans cesse « C'est fini, c'est fini, c'est fini ».
C'est fini, 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 fini. C'est fini, 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 fini.
Et puis on raconte aussi qu'Hervé Villard a pensé à Capri en voyant tout simplement une publicité dans le métro, une publicité qui vantait les mérites et les charmes de cette île italienne. Cette chanson, vous le savez, sera un énorme tube. Marguerite Duras a même affirmé un jour que c'était pour elle la plus belle chanson d'amour. Alors celle-ci existe dans plusieurs langues, elle a rapporté bien sûr des millions à son auteur et Capri s'en est emparé avec fierté.
Du bateau déjà, on sent que Capri va tenir ses promesses. On la dit romantique, magnifique. On dit qu'une fois dans sa vie, il faut avoir vu Capri.
C'est ce que l'on dit, voir Capri au moins une fois.
Je ne crois pas que j'y retournerai.
Certain, c'est que cette île dans la baie de Naples a toujours inspiré les artistes de différents domaines et cela n'étonne pas notre invité Clemens Krause.
Évidemment, le nom de Capri a fait le tour du monde, hein. Bien sûr, parce que c'est une île effectivement très belle et se situe au sud du golfe de Naples qui est morphologiquement calcaire, une île calcaire. Par contre, tout le nord du golfe, à partir du Vésuve jusqu'à Ischia, le sous-sol est volcanique. Hein, c'est toute la différence. En face de Capri se trouve justement l'île de Ischia. qui va jouer un certain rôle lorsque Auguste va passer à, rentrant de la bataille de Actium, va s'arrêter à Capri, tombe amoureux de cette île et demande aux Napolitains de l'échanger contre Ischia, qui est de propriété romaine. Naples est d'accord, mais disons, l'histoire de Capri, en fait, commence, oui, avec Auguste en 30 avant, et se termine avec la mort de Tibère, plus ou moins. Ensuite, Capri tombe dans l'oubli, reste encore un peu. On sait que sous l'empereur Commode, par exemple, c'est devenu une île pour l'exil impérial, et tombe dans, alors, complètement dans l'oubli pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au 19e siècle.
Et de quelle manière est-ce qu'elle va être redécouverte et pourquoi ?
Elle va être redécouverte à cause d'un livre écrit par un peintre allemand, Kopisch, August Kopisch, La découverte de la grotte bleue. Alors, qu'est-ce que c'est cette grotte bleue ? Tout le monde veut, évidemment, veut savoir ce que c'est cette grotte bleue. Mais il y a une autre, en même temps, n'est-ce pas, naît aussi le souvenir de cette île de Tibère, et du personnage de Tibère qui attire une certaine bourgeoisie, grande haute bourgeoisie européenne, qui, à cause notamment de leur côté, leur penchant homosexuel, est mal tolérée en Europe. Ça devient un peu le refuge de ces grands personnages très connus, comme les Krupp, qui vont laisser leurs traces sur l'île de Capri et font évidemment la renommée aussi de Capri moderne.
Capri, c'est déjà un bijou de Dolce Vita, mais si on en fait le tour par la mer, on découvre alors des joyaux encore plus beaux. Vertigineuses, les falaises de l'île plongent sur la Méditerranée. Et au détour d'une crique, un étonnant ballet. Un embouteillage de bateaux de toutes les tailles. C'est l'entrée de la grotte bleue.
Cette grotte bleue à Capri, elle est très prisée par les touristes.
Ah oui.
C'est l'attraction.
Évidemment. Oui, oui. Il y a, faut dire, il y a 10 fois plus de touristes qui vont voir la grotte que la Villa Jovis, ça c'est clair. On part de Capri, du port de Capri, dans des barques, jusqu'à l'entrée de la grotte, qui est une petite ouverture. Il faut baisser la tête pour passer.
Mais ça vaut la peine de se baisser.
Ça passe. Lay down, please.
Baissez-vous, s'il vous plaît. Allez, poussez avec moi. Et après, restez couché.
Et alors ensuite, la grotte, évidemment,
c'est magnifique.
Elle est bleue, oui. Elle est vraiment bleue, par réflexion du soleil à travers l'eau de la bleue de la mer. C'est un effet vraiment très beau.
Oh là là ! Oh là là, messieurs, dames ! Bienvenue au paradis !
Ce paradis, une caverne sombre dont l'eau est bleue, comme celle d'une piscine. 60 mètres de long, 20 mètres de profondeur, uniformément turquoise. Une merveille qui est pourtant la conséquence d'un phénomène géologique très simple.
Sur le fond de la grotte bleue, il y a du sable blanc. C'est du calcaire et les rayons du soleil pénètrent par le petit trou là-bas et ça donne ce bleu.
Cette grotte extraordinaire a été découverte par 2 promeneurs il y a 2 siècles à peine. Elle était restée oubliée pendant quasiment 2000 ans.
L'empereur Tibère, au temps des Romains, venait ici pour se baigner. C'était un peu sa piscine privée.
Archive France 2.
Capri veut dire, est un nom grec en fait, et non pas romain. On pense toujours Caprea, l'île des chèvres. Non, c'est Capros, c'est l'île du sanglier. L'île du sanglier, allez savoir pourquoi, on ne le sait pas vraiment. Hein. On a pensé à la forme de cette île caractéristique, mais bon, c'est Capros.
Depuis l'Antiquité, Capri a toujours attiré les riches et les puissants de ce monde.
Extrait du documentaire « Capri et les îles romantiques ».
Il y a 2000 ans, l'empereur de Rome s'appelait Tibère. Au fait de sa puissance et de sa gloire, il fit construire la plus belle de ses demeures à Capri.
Auguste fut le premier à tomber amoureux de l'île et à y construire une villa.
Absolument.
Clemens Krause, archéologue.
C'était à l'occasion de son retour de la bataille de Actium avec Agrippa contre Marc-Antoine, son rival, et Cléopâtre. C'est une bataille navale. Quand il est vainqueur, il rentre de Actium, s'arrête à Capri et tombe sous le charme de cette île.
Mais c'était pas la résidence principale d'Auguste.
Non, non, pas du tout. C'était sa villégiature. Sa villa principale se trouvait au-dessus du port actuel, qui n'existait pas à l'époque, et on la connaît, donc l'endroit. Sur cette villa, aujourd'hui, est construite une villa du 19e siècle, la villa Williams. Donc, on n'a pas fouillé cette villa, mais on connaît très bien l'endroit et les environs aussi de cette villa. Donc, Suétone décrit le dernier séjour d'Auguste à Capri en compagnie de Tibère. Et Tibère doit partir en Illyrie. Auguste lui propose de l'accompagner et, arrivé vers Bénévent, Auguste se sent mal et préfère retourner dans sa maison paternelle qui se trouve à Nola, c'est près de Naples. Tibère va l'accompagner et Auguste va effectivement mourir quelques jours plus tard. Et Tibère va reprendre le pouvoir, y compris, naturellement, le siège de Capri. Sauf qu'il n'y va pas y aller tout de suite. Il va régner tout de même pendant 12 ans à Rome. Et en 26, décide de quitter Rome pour, alors, prétexte officiel, pour inaugurer un Capitole dans la ville de Capoue et un temple en l'honneur d'Auguste à Nola. Ça, c'est le prétexte officiel. Mais à Rome, on dit, de toute façon, il est vieux, il ne va plus retourner. Effectivement, il ne retournera plus jamais dans la capitale. Il va encore vivre 10 ans. Il va se retirer à Capri sans jamais retourner à Rome. Tout se passe à partir de Capri, en relation évidemment avec Rome. Il y a là une installation, on dirait aujourd'hui télégraphe, ça se passait par des stationnements de feu. Ça, on le sait par les sources, c'est d'ailleurs la source la plus importante pour expliquer les télécommunications à l'époque romaine par le feu. Donc, il y a à côté de la villa Iovis à Capri, une tour qui est une tour de signalisation. C'est pas le phare, comme on a pensé. Le phare, c'est autre chose, c'est ailleurs. C'est une tour de signalisation qui communique avec le promontoire de Sorrente d'abord, et ensuite il devait y avoir des tours autour qui vont le tour du golfe de Naples, et depuis Misène, le long de la côte du Latium. Encore aujourd'hui, il y a des tours le long de la côte du Latium, qu'on appelle Sarrazène, ou enfin des tours médiévales. Et je suis sûr qu'en faisant des recherches, par exemple des carottages, on pourrait dire, le noyau de ces tours-là, qui se voient l'une par rapport à l'autre, c'est les fameux speculae de cette installation, de ces communications entre Capri et Rome.
Tibère, il va faire installer une villa. Alors, c'est pas la villa Tibère, hein, c'est la villa Iovis.
Oui. La villa Iovis, donc la villa de Jupiter, c'est son nom, parce qu'il y a 12 villas, paraît-il. Alors on pense chacune de ces villas porte le nom du Panthéon romain. Villa de Jupiter, villa Iovis, c'est le génitif de Jupiter. Oui, il va faire construire cette villa pendant qu'il est à Rome. C'est 12 ans qu'il reste à Rome, hein. Il faut quand même un certain temps pour construire cette villa, qui est un palais gouvernemental, finalement.
Ah oui, c'est un palais ou une villa?
Alors, ni l'un ni l'autre, en fait. Parce que, justement, Rome, ne connaissant pas le palais, son architecte, très probablement grec, a dû suggérer de prendre comme modèle un palais, alors cette fois, hellénistique. Parce que, évidemment, en Grèce, en Orient, hellénisé, les rois avaient des palais. C'est des palais qui dérivent du type de la maison grecque, c'est-à-dire c'est une construction à péristyle. Un péristyle au centre et quatre ailes qui se articulent autour. C'est ça la Villa Iovis, et ça reste un exemple absolument unique dans l'architecture romaine.
Mais Tibère avait aussi sa part d'ombre. Il était réputé pour sa cruauté. L'empereur attirait à Capri ceux qu'il voulait faire assassiner. Il confiait la haute société à des fêtes somptueuses. Mais, après le banquet, certains invités disparaissaient mystérieusement. En prétextant une promenade dans ses jardins, Tibère attirait les malheureux dans un piège mortel. Les historiens de l'époque racontent qu'il les précipitait du haut de la falaise, dans un endroit que l'on appelle encore aujourd'hui le Sceau de Tibère.
Vous parliez tout à l'heure du phare, et c'était un élément essentiel.
Oui, absolument. Alors, il apparaît même donc dans les sources. Il va être construit en même temps que la villa. Il va s'écrouler peu de jours avant la mort de Tibère. Voilà, disent les sources, donc en 37. Il va être reconstruit et c'est Domitien qui va le reconstruire, probablement après une deuxième chute de ce phare, lors du tremblement de terre de 62 qui a détruit Pompéi, puis qui a dû ravager aussi. Ça, on le voit à la villa, et la villa a dû être reconstruite partiellement avec sa hauteur de plus de 40 mètres. L'aile sud, c'est vraiment écroulé, ça on le voit. Et donc le phare également, il va être reconstruit une deuxième fois. Le plan qu'on a, on a la moitié seulement, l'autre moitié s'est écroulée. On a la moitié. Le plan de cette moitié-là reflète exactement ce qu'on connaît du phare d'Alexandrie. Donc il s'agit à Capri vraiment d'une copie du phare d'Alexandrie.
Mais quel était le but d'avoir une telle construction sur l'île de Capri?
Il y a d'abord la nécessité. Alors, les bateaux, le trafic maritime principal se passe entre l'Égypte et Pozzuoli, le port de Rome où arrivent tous les bateaux. Lorsque les bateaux arrivent d'Égypte, ils passent le détroit entre Sorrente et Capri. Et il y a un poème là qui dit que lorsque les bateaux quittent Pharos, c'est-à-dire Alexandrie, arrivent à Capri, saluent Capri d'abord à gauche et donnent une offrande de vin sur la droite en honneur de Minerve. Voilà. Évidemment, le deuxième aspect, c'est le prestige. Prestige hein, d'avoir le phare, une copie du phare d'Alexandrie à côté du palais impérial.
Au début du XXe siècle, les milliardaires du monde entier commencent à affluer. Comme le célèbre industriel allemand Ferdinand Krupp, qui en fit une destination à la mode. Capri attire aussi les artistes et les intellectuels. Même Lénine séjourna sur l'île de la haute société pour préparer la révolution de 1917.
Celle que l'on surnomme l'île de Tibère va aussi devenir le refuge des personnes mal tolérées en Europe en raison de leur homosexualité. Il y a entre autres l'industriel allemand Friedrich Albert Krupp. Il aimait beaucoup séjourner à Capri et il fit tracer un chemin escarpé au milieu des rochers. Ce chemin, c'est la Via Krupp et c'est aujourd'hui une curiosité touristique. La route s'insère parfaitement dans un site magnifique et le parcours est d'environ 1,3 km. Cette route fut construite en 1902 d'après un projet de l'ingénieur Mayer. Et d'après l'architecte Pan, cette route démontre que même une route peut être de l'art, pas comme façon de parler, mais dans le sens esthétique du terme.
Une route comme une œuvre d'art, tout en zig et en zag. Krupp, du nom de son commanditaire, le roi de l'acier dont on fait aussi les canons, savait être poète à Capri, où il passait vers 1900, ces hivers loin de la grisaille.
Regarde la géométrie. C'est, ça c'est beau avec le très chapeau, ça c'est une belle photo. Voilà.
«
Capri, il y a aussi l'escalier phénicien.
Oui, oui. Alors, on se demande pourquoi phénicien, n'est-ce pas ? Pourquoi pas grec ou romain ? Non, phénicien. On ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas. Est-ce que c'est déjà les Romains qui ont choisi ce nom-là pour une raison ou une autre ? L'île, tout de même, est grecque depuis le 7e siècle avant. Peut-être les Phéniciens, auparavant, étaient là, mais... Non, c'est une véritable question qu'on n'a pas vraiment résolue.
Il ressemble à quoi cet escalier phénicien ?
Ah, c'est un escalier qui relie Capri à Anacapri. Capri, la pointe la plus haute, Villa Jovis, c'est 300 mètres. La pointe la plus haute de Anacapri, c'est 600 mètres. Et donc, il y a à peu près 300 mètres de différence de niveau qui se fait par... aujourd'hui, il y a une route, mais à l'époque, jusqu'au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, ça se faisait par cet escalier de 300, 400...